Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Au moins 3 personnes tuées cette semaine par des rebelles centrafricains de la Seleka à Mopoy, dans la province du Bazouélé. C'est après une incursion de ces rebelles en errance dans cette région. La société civile de Banda plaide pour le renforcement des militaires FARDC dans la zone. Les cours n'ont toujours pas repris dans plusieurs écoles primaires du Sud Kivu. Cela plus d'un mois après la rentrée scolaire. Les enseignants en grève réclament du gouvernement notamment la paie complémentaire de $500. Ici à Kinshasa, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC vient de saisir le ministre de la Justice pour dénoncer des menaces que subissent ses membres. Et puis, les conditions de navigation sur le lac Kivu posent un sérieux problème, ce qui a causé le naufrage du 3 octobre dernier près du port de Kituku à Goma. C'est la conclusion du député national Jules Mugiraneza après ses échanges avec les rescapés et les familles des victimes. L'élu de Masisi est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de la province du Bazouélé. Au moins 3 personnes ont été tuées par des rebelles centrafricains de la Seleka dans la chefferie Mopoy, secteur de Banda, dans le territoire d'Ango. Ces meurtres sont intervenus entre le 7 et le 9 octobre en cours, après l'incursion de ces rebelles dans cette contrée. La population s'est dit inquiète à cause de l'errance de ces rebelles dans différents villages. La société civile locale plaide pour le renforcement des effectifs militaires dans cette région. Le point avec Jacques Moukonko.
Parmi les victimes de ces rebelles centrafricains figurent un jeune homme de 35 ans et son fils âgé de 12 ans, élève à l'école primaire d'Indo. Pour s'être déclaré fatigué, ils ont été ligotés contre un arbre avant d'être fusillés le 9 octobre au village Samungu, rapporte la société civile locale. Poursuivant leur chemin, ces rebelles ont enlevé 4 autres personnes. Cette structure citoyenne craint que le nombre de victimes n'augmente parce que, déclare Théo Zarbina, on avait entendu le crépitement de balles quelques temps après le départ avec leurs otages vers une destination inconnue. Bien avant ce double meurtre, les Seleka ont abattu mardi dernier un homme de 37 ans à la rivière Loï après avoir été chassé par 2 éléments FARDC en poste à Banda, mais se trouvant en ce moment-là dans ce village. Quelques 4 otages utilisés comme transporteurs avaient réussi à s'échapper lors de cette intervention. Nous n'avons pas réussi à joindre l'administrateur du territoire d'Ango pour confirmer ou infirmer ces allégations. Qu'à cela ne tienne, la société civile de Banda plaide pour le renforcement des militaires FARDC dans cette zone afin de sécuriser la population contre les incursions récurrentes des groupes armés étrangers dans leur contrée. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Du côté du Nord Kivu, la problématique des violences sexuelles dans et autour des camps des déplacés est une réalité et une des conséquences de la guerre qui perdure dans la région. À la base, la promiscuité, l'absence des services de base et de conditions hygiéniques adéquates, ce qui expose les déplacés aux violences sexuelles. La prise en charge des victimes est assurée grâce aux partenaires humanitaires, en plus de la sensibilisation. Cependant, la réponse durable reste le retour de la paix et des déplacés dans leur milieu d'origine, déclare un responsable sanitaire. Sifa Maguru revient sur cette problématique dans ce reportage.
La situation est préoccupante au regard du nombre élevé d'incidents liés aux violences sexuelles enregistrées dans les camps des déplacés. C'est ce qu'affirment les responsables des structures sanitaires locales. Écoutons l'infirmier titulaire de l'aire de santé de Bouimba, Muindo Emery.
Il y a celle-là qui quitte les camps et aller chercher peut-être la nourriture ou les bois au niveau de la forêt. Et à ce niveau-là, ils sont victimes de violences. C'est vrai que nous enregistrons maintenant beaucoup de cas.
Il explique que la prise en charge des victimes est assurée grâce à l'appui des partenaires selon leur domaine d'intervention.
On a autour de 4 à 5 cliniques qui font la prise en charge des cas de violences sexuelles, y compris même les centres de santé du Sud. Chaque partenaire a ses paquets, ces volets de prise en charge. Il y a celui-là qui peut prendre le volet médical, il y a celui-là qui peut prendre le volet psychologique, il y a celui qui peut prendre le volet juridique ou réinsertion socio-économique.
Le travail de sensibilisation est également fait pour encourager les victimes à dénoncer des cas vers les cliniques mobiles afin qu'elles puissent être prises en charge. Ces responsables sanitaires affirment en outre que quelques cas d'inceste et de viol sur des hommes sont également enregistrés dans les camps des déplacés. Goma, Sifa Maguru, Radio Kapi.
Restons en Nord Kivu pour parler de cette situation restée volatile ce vendredi 11 octobre dans la localité Kaira, groupement Bachali Mokoto, dans le territoire de Masisi. Cette localité était le théâtre des violents affrontements toute la journée hier entre les rebelles du M23 et les combattants des groupes VDP Wazalendo. Selon des sources locales, les rebelles soutenus par l'armée rwandaise ont lancé l'assaut sur certaines poches de résistance des Wazalendo dans la zone. Ayant commencé autour de 14 heures locales, des tirs d'armes légères et lourdes ont été entendues jusqu'à la tombée de la nuit, indiquent nos sources. Elles affirment que la situation ce vendredi est imprévisible à Kaira ainsi que dans le village voisin de Luanga où les deux forces se regardent en chien de faïence. Je vous le disais en titre, au Sud Kivu, plus d'un mois après la rentrée scolaire, la grève des enseignants du primaire se poursuit, assemblée après assemblée. Les gestionnaires d'école appellent à la reprise des cours dès le lundi 14 octobre, mais les enseignants, eux, campent sur leur position. Pas de reprise des cours avant que le gouvernement ne concrétise leur demande, notamment la paye complémentaire de $500. Rachel Kiesé.
Les gestionnaires d'écoles conventionnées et non conventionnées et les inspecteurs appellent les enseignants à reprendre le chemin de l'école à partir du lundi 14 octobre sur toute l'étendue de la province du Sud Kivu. Ils l'ont décidé mercredi dernier après une réunion d'évaluation du mouvement de grève. De leur côté, lors de l'évaluation de leur grève ce jeudi 10 octobre à l'Épée Matendo, la synergie des syndicats des enseignants du Sud Kivu convient de continuer à observer la grève. Roger Matabaro, secrétaire provincial du CIECO.
Ainsi, les enseignants ont décidé de clarifier les mobiles de leur mouvement de grève, à savoir 1. La redéfinition d'une nouvelle politique salariale par l'Assemblée nationale. 2. La suppression des zones salariales en mettant tous les enseignants au même niveau que Kinshasa. 3. Le terme école de prestige doit être supprimé, puisque l'enseignant de l'école de prestige a 260 000 francs de prime de gratuité, pendant que l'enseignant d'une autre école n'a que 60 000 francs. La paie des nouvelles unités et NP. 5. L'octroi des numéros matricules de la fonction publique à tous les enseignants.
Bukavu, Rachel Kiesé, Radio Okapi.
Entre-temps, ici à Kinshasa, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC vient de saisir le ministre d'État en charge de la justice pour signaler des diverses menaces que subissent ses membres. Dans cette correspondance, cette organisation syndicale regrette que des enseignants soient menacés par leur chef hiérarchique de reprendre le chemin de l'école alors que la grève est garantie par la Constitution dans son article 39. Blaise Ndongala.
Dans cette correspondance de plusieurs pages, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC indique avoir reçu plusieurs plaintes de leurs membres disséminées à travers les provinces éducationnelles du pays. Cette structure cite entre autres des enseignants de la Tchopo, du Maïndombe, de Kinshasa, du Nord et Sud Kivu, qui nécessitent la sécurité du gouvernement pendant cette période de la grève. Parmi ces menaces, signalent les porte-parole de cette synergie, il y a des inspecteurs qui veulent désactiver certains enseignants des listings de paye et d'autres enseignants disent même recevoir par voie téléphonique des menaces de mort par des personnes non autrement identifiées. Jean Bosco Puna a à cet effet rappelé que les enseignants, comme tout Congolais, ont le droit de revendiquer pacifiquement leurs droits, comme stipule la Constitution dans son article 39. Dans cette même lettre, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC sollicite des deux chambres du Parlement la révision à la hausse du budget du secteur de l'éducation afin que des enseignants bénéficient des salaires dignes.
Et puis, 5 ans de servitude pénale, c'est la peine prononcée contre l'agent de police Mapatika Layuma, garde rapproché du maire de la ville de Matadi. Peine prononcée hier par le tribunal militaire de garnison de Matadi. L'inculpé est poursuivi pour violation des consignes et dissipation des munitions de guerre lors de la manifestation des élèves des écoles publiques qui a eu lieu le lundi 7 octobre. Le cadre de concertation de la société civile du Congo central salue cette condamnation. D'après cette structure, cette condamnation revêt un caractère pédagogique afin de maintenir l'ordre et la discipline au sein de l'armée et de la police nationale. Nana Plurich Mambou.
Les policiers Mapatika Layuma écopent de cette peine pour avoir ouvert le feu sur les élèves des écoles publiques de Matadi lors de leur manifestation. Le tribunal militaire des garnisons de Matadi qui a prononcé ces verdicts les reconnaît coupables de violation des consignes à temps de paix et de dissipation des munitions de guerre. L'inculpé doit aussi payer 150 000 francs de frais d'instance. Ce verdict est salué par les comités des sages du cadre de concertation de la société civile du Congo central. Fidel Mwanda Mikiama en est le président.
Note avec satisfaction la rapidité avec laquelle le procès a été rendu, mais les forfaits commis méritaient au moins 20 ans de servitude pénale. Mais je pense que du moins le message est passé pour les autres policiers pour savoir que on ne peut pas tuer à balles réelles n'importe quand, n'importe comment, surtout pour quand il s'agit des élèves.
Rappelons que ces procès opposant les tribunaux militaires des garnisons et les ministères publics au policier Mapatika Layuma a été présidé par le major magistrat Bokalango Pongo, président du tribunal militaire des garnisons de Matadi. Il a été ouvert le mardi 8 octobre sur instruction du gouverneur des provinces qui, dans un communiqué, a fustigé l'utilisation d'une arme létale dans la répression d'une manifestation des élèves et a exigé une sanction disciplinaire pour cet élément de la police. Matadi, Nana plus riche Mambu, Radio Okapi.
Parlons santé à présent. Au Nord Kivu, des cas de VIH-Sida et de tuberculose sont signalés dans les prisons de Kangwai à Beni et de Kakwangura à Butembo. Information livrée cette semaine à Radio Okapi par le responsable de la sous-coordination du programme national de lutte contre le sida PNLS dans la région de Beni, Butembo et Lubero. Docteur Nikez Maté dit craindre une contamination et une propagation vers les autres détenus. Il plaide ainsi pour l'accès aux soins de malades et l'organisation des campagnes de dépistage dans ces deux prisons. Le responsable de la sous-coordination du PNLS dans la région de Beni, Butembo et Lubero explique la situation au micro de Martial Papimukeba.
Nous avons détecté des cas de tuberculose, des cas de VIH dans nos prisons. Mais vous savez que les deux maladies sont jumelles. Ce qui fait qu'il est probable que la tuberculose puisse influencer l'évolution du VIH et que le VIH influence l'évolution de la tuberculose. Nous avons peur qu'il ne puisse pas avoir de soins et une fois sorti, qu'il ne puisse également contaminer la communauté. En premier lieu, nous avons donné des ARV pour ceux qui sont positifs et nous avons essayé un peu de renforcer en test. Mais nous avons besoin qu'il y ait des pères éducateurs dans ces établissements, qu'il faut continuer à sensibiliser les détenus. Et une fois que le détenu est sensibilisé, il faut que les soins soient disponibles, donc les dépistages qui soient disponibles et que les ARV également soient disponibles. Voilà pourquoi j'ai formulé ce plaidoyer, pour que nous puissions avoir la facilité d'accès et que les interventions puissent accéder à ces malades. Et si nous avons des appuis avec la MONUSCO, CICR, nous pouvons organiser une formation pour les pères éducateurs et une campagne de dépistage.
Santé toujours. Dans la province de Maïndombe, au moins 457 000 enfants de moins de 5 ans sont attendus pour le vaccin contre la poliomyélite. Il s'agit de la quatrième phase de la campagne de masse qui va du 10 au 12 octobre en cours. Annonce faite par le chef de division provinciale de la santé de Maïndombe, Dr Francis Kambol. C'était lors du lancement de la dite campagne hier à Inongo par le gouverneur de province. Dr Francis Kambol parle de cette campagne au micro de Irène Boma.
Alors que la République démocratique du Congo a été déclarée libre de circulation du poliovirus sauvage en novembre 2015. Cela impose donc les campagnes de vaccination pour riposter. Maïndombe est de 457 201 enfants de 0 à 59 mois qui sont attendus pour ce passage de la vaccination. Et la mise en œuvre de ce passage pour le nouveau VPO qui est prévu du 10 au 12 octobre 2024. Le nouveau vaccin poliovirus de type 2 sera utilisé en stratégie porte-à-porte et d'autres stratégies spécifiques seront utilisées dans le but d'atteindre tous les enfants cibles et éviter ainsi de trouver les enfants 0-12. La prise en charge de tous ces prestataires qui passeront de ménage à ménage est assurée par l'OMS et l'UNICEF pour l'effectivité de cette campagne. Que ces partenaires soient rassurés de notre reconnaissance pour les efforts consentis. Les prestataires qui passeront dans les ménages ne manquent pas de sensibiliser la population sur l'épidémie des Mpox.
Et en Ituri, 3 centres de santé dans les territoires de Djougou et d'Irumu bénéficient désormais d'un service de santé mentale et psychosociale. Ces services sont mis en place afin de prendre en charge des personnes affectées par les troubles mentaux dans cette région en proie aux conflits armés, un des facteurs à la base des nombreux cas de traumatisme. Annonce faite jeudi par Frédéric Soustem, le chef de la sous-délégation du Comité international de la Croix-Rouge CICR à Bounia. C'était en marge de la célébration le 10 octobre de la journée mondiale de la santé mentale. Frédéric Soustem est au micro de Ezekiel Mousalia.
Grâce aux efforts du CICR en appui au programme national de la santé mentale, le service de santé mentale et soutien psychosocial est désormais disponible au centre de santé de Rubingo, Chabi, Nyakunde, Kilo et au service de réadaptation physique de Rwankole à Bunia. Les conflits armés sont à l'origine des séquelles psychologiques à l'endroit des personnes impactées par les conséquences des violences dont ils sont aussi souvent témoins. À cause de plusieurs facteurs de vulnérabilité, dont le manque d'informations claires, sûres et crédibles sur la santé mentale, plusieurs personnes sont contraintes de demeurer dans un profond silence au risque de voir leur santé se détériorer chaque jour. En plus de référer les personnes affectées dans des structures appropriées, vous êtes conforté dans votre rôle de les approcher, de les écouter et de mener des interviews avec elles, tout en persévérant leur sécurité et leur dignité.
Actualité internationale.
Nous sommes au Soudan. Depuis plus d'un an, le pays est plongé dans une guerre civile qui a coûté la vie à plus de 14 000 personnes et le déplacement des dizaines de millions d'autres. Un conflit qui a un fort impact sur la vie des enfants, indique le représentant de l'UNICEF au Soudan. Au Darfour et dans les autres régions du pays, environ 14 millions d'enfants font face à un besoin urgent d'aide humanitaire. La quasi-totalité d'entre eux ont été déscolarisés.
L'invité.
Les conditions de navigation sur le lac Kivu posent un sérieux problème, ce qui a occasionné l'accident tragique survenu le 3 octobre dernier près du port de Kituku à Goma. Après avoir échangé avec les rescapés et les familles des victimes, le député national élu de Masisi, Jules Mugiraneza, évoque la surcharge, le mauvais état du bateau, mais aussi la négligence des services étatiques comme cause de ce drame. Invité de ce midi, il revient sur les témoignages des victimes et les failles observées dans le secteur de la navigation. L'élu de Masisi s'entretient avec Sifa Maguru.
Honorable Mugiraneza Jules, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes venu compatir avec la population à la suite du naufrage qui est survenu sur le lac Kivu le 3 octobre. Quel constat avez-vous fait?
Moi, comme élu de Masisi, sachant que la population de Goma, de Masisi, de Kare aussi, de Kivu sont les plus concernés, j'ai décidé de venir présenter mes condoléances et consoler les familles des victimes de ce naufrage.
Est-ce que vous avez visité les familles? Quels sont les témoignages que vous avez recueillis?
Je suis directement allé d'une famille à une famille où il y avait des cas de décès ou des cas de rescapés et j'ai obtenu certains témoignages. Je vous assure que c'est difficile à entendre. Je ne prends que deux témoignages. L'une est venue d'une maman qui a été miraculeusement rescapée. Elle était partie avec son enfant, avec sa petite sœur et son enfant et avec une dame garde de bébé. Au retour, elle me raconte qu'ils sont entrés dans le bateau entassés comme des sardines. Ils étaient nombreux parce qu'ils attendaient deux bateaux. Il n'y a qu'un seul bateau qui s'est présenté. Ils sont entrés dedans. Le bateau a commencé à faire des secours aux approches de Nzulu et il a fait un tour, il s'est redressé un autre tour, il s'est repris, ils ont commencé à crier, à prier, mais le troisième tour, il s'est renversé, ils étaient dedans. Il a commencé à se battre, il ne sait pas nager, il n'avait pas de gilet non plus, jusqu'au moment où son bébé a lâché, le bébé est tombé et il a continué. À un moment donné, on a tendu une corde, je crois que ça venait d'une équipe de sauvetage des Sud-Africains. Ils ont tenu la corde à 5 avec le mouvement de l'eau et tout ça. Il y en a où les têtes tapées sur les bateaux, les têtes sont écrasées, 3 sont tombées et 2 sont sorties et elle est sortie miraculeusement indemne. L'enfant était mort, mais il était soulagé de voir les corps de cet enfant. Il y a 4 personnes qui sont décédées dans la famille. Un autre cas, un papa qui a perdu 7 membres de famille. Ils se sont retrouvés là-bas en famille et puis ils ont décidé de rentrer tous ensemble. Et il n'y a pas de survivants et on n'a pas retrouvé le corps. Le papa est inconsolable. Et c'est d'ailleurs ce papa qui m'a interpellé, me permettant même de comprendre les causes de cet accident. Il dit, mais honorable, est-ce que nous avons un gouvernement? Comment un bateau qui a fait plusieurs pannes sur le lac, on connaît,
Auparavant,
et on a continué encore à l'utiliser. Comment le bateau fait des surcharges pour des centaines de personnes alors qu'il y a tous les services de l'État à Minova. Donc c'est parmi les grandes causes là. Le bateau en mauvais état, les responsabilités du gouvernement parce que ça s'est passé sous le regard complice des autorités étatiques et en présence à Minova.
Ce naufrage-là dramatique vient soulever plusieurs questions sur la navigation entre Goma et Bukavu.
Non, je crois que le secteur de transport sur le voie maritime et le voie lacustre surtout et fluvial pose problème chez nous parce qu'il y a des accidents pareils, mais pas de cette ampleur. Mais il y en a eu aussi ailleurs. Et je crois qu'il revient de notre responsabilité comme député national et demander au pouvoir central de bien nous éclairer quant à ce. Mais la spécificité sur le lac Kivu, c'est qu'on sait que le bateau n'est pas en bon état, semble. Les informations à ma possession, c'est qu'on avait déclassé, interdit de naviguer sur le lac. Mais on laisse faire. Les gens entrent sur le bateau comme les gens qui se bousculent pour entrer dans un stade, se plaint. On laisse faire. Puis la route qui est une voie ici, l'alternative crédible, on ne l'ouvre pas.
Donc le bateau-là était interdit de naviguer?
En tout cas, j'ai eu des informations qui ont dit que ce bateau ne pouvait plus naviguer, n'était pas plus en bon état. Il ne peut pas aller à Bukavu. Il a choisi, je ne sais pas par autorisation de qui, de faire des petits tronçons, Kituku.
Dans les villages tout autour, ouais, au bord du lac.
Au bord du lac. Mais qu'il a déjà fait des pannes, selon les témoins. Sur le lac, mon vieux dépanné, et puis après il arrive. Et on continue à accepter qu'il fasse ça. Je crois qu'il y a une certaine irresponsabilité.
Vous, en tant que député, quand même, il y a des lois qui sont là, il y a des mesures qui ont été prises sur papier, mais qui souffrent d'application.
Nous avons même une commission spéciale chargée de faire le suivi de l'application des lois et des résolutions que nous prenons à l'endroit du gouvernement. Quand je rentre à Kinshasa, je crois qu'on va continuer. J'ai entendu le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui a demandé qu'on connaisse les nombres réels des victimes pour éviter des controverses. Donc, c'est pas une question qui va s'arrêter aujourd'hui.
Merci beaucoup, Monsieur Jules Mugiraneza.
Je vous en prie.
L'élu de Massissi répondait aux questions de Sifa Maguru. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.